Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez comme tout le monde sur RTVFM, l'émission par les jeunes pour les jeunes, mais pas que. Aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale dans plusieurs sens. Tout d'abord parce que vous écoutez la 10e émission comme tout le monde et le 21 novembre, donc le lendemain de la diffusion de cette émission, cela va faire un an que l'émission existe. Mais cette émission elle est aussi spéciale parce que c'est la première émission que fait Margot avec moi, la nouvelle co-animatrice de Comme Tout Le Monde, que vous avez déjà entendu dans l'émission du débat sur les jeunes manifestants. Elle s'est déjà exprimée dans tout un tas de radios, dont la première radio de France, qui a, vous savez, celle qui a un logo rouge et qui est du service public. Eh ben, on l'a bien repéré. Et donc elle est militante pour tout un tas de causes, mais elle est ici avec nous, chez RTVFM. Bonjour Margot.
Bonjour.
Comment tu vas aujourd'hui? Pas trop stressée?
Alors non, ça va très bien, à l'aise plutôt.
Donc c'est ta première émission en tant que co-animatrice.
Oui, c'est
on n'a même pas répété d'ailleurs, ça c'est pas trop professionnel. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre dans le studio. Nous avons avec nous une professeure du lycée Jean-Henri Fabre de Carpentras, Madame Duterail. Bonjour.
Bonjour.
Comment je vous appelle, Madame Duterail? Parce que votre nom complet c'est Madame Duterail Couva. Comment vous voulez que je vous appelle?
Madame Duterail, c'est parfait.
D'accord, très bien. Mais Margot, pourquoi on a fait venir des professeurs qui sont nos professeurs? En plus, c'est quand même une drôle d'idée.
Eh bien, nous avons fait venir aujourd'hui une professeure pour nous parler d'une réforme qui nous touche, nous, les jeunes, mais aussi les professeurs, justement. C'est la réforme Blanquer. Et donc, on va voir aujourd'hui si cette réforme est peut-être arrivée un peu trop tôt.
Vous allez écouter Comme Tout Le Monde avec Enzo sur RTVFM.
Pour résumer, la réforme Blanquer, c'est une réforme du diplôme du bac qui supprime les filières générales qui étaient S, L et ES. Maintenant, nous avons à partir de la première un tronc commun qui comprend les matières comme le français, qui est remplacé par la philo en terminale, l'histoire géo, le sport, les langues vivantes et une matière qu'on appelle enseignement scientifique, qui est censé regrouper maths, physique et SVT. Alors, on en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs, cette matière. Suite à ce tronc commun, nous devons choisir en seconde trois spécialités pour la première et en garder deux en terminale. Donc, je me tourne vers vous, cher professeur. En globalité et en théorie, sur le papier, quoi, quel est votre avis sur cette réforme?
Ah, mon avis général.
Oui.
Pour l'instant, c'est un peu difficile à dire parce que c'est un peu tôt. C'est-à-dire que...
Non, mais je veux dire, sur le papier, dans l'idée.
Ah, dans l'idée, la suppression des filières pourrait avoir un véritable intérêt puisque les filières éventuellement reproduisaient des hiérarchies de société suivant les L, les S et les ES. Et puis, c'était intéressant de pouvoir proposer aux élèves de choisir un parcours un peu plus personnalisé qui correspondait peut-être plus à ce qu'ils attendaient et donc qui pouvait peut-être plus les motiver. Dans les faits, en réalité, étant donné le système de Parcoursup, on retrouve beaucoup de choix de parcours qui correspondent aux anciennes matières des filières.
D'accord. Mais maintenant que la réforme est en application, comment vous, de votre côté, vous le vivez?
Alors, je le vis par un tout petit biais, puisqu'en réalité, je n'enseigne qu'une discipline en première et la réforme n'est pas encore arrivée en terminale. Pour la philosophie, nous avons un nouveau programme à mettre en application l'année prochaine en terminale, et cette année, j'enseigne 2 heures par semaine simplement à un groupe qui a pris la spécialité humanité, littérature et philosophie. Après, je peux me faire écho de ce qui se passe, des inquiétudes en salle des professeurs sur le rapport des élèves à ces nouvelles spécialités, qui est éventuellement plus ou moins sérieux. Il y a des inquiétudes, en tout cas.
Margot, tu veux dire quelque chose, peut-être?
Oui, moi, j'avais une question. Alors, est-ce que vous pensez que cette réforme est arrivée trop tôt? Est-ce parce qu'on est au courant qu'il manque encore des informations par rapport aux futures épreuves?
Alors, c'est vrai que la donnée temporelle est assez marquante dans cette réforme, puisque elle a été annoncée, puis très rapidement mise en œuvre, à tel point que même certaines modalités de cette année sont découvertes au fur et à mesure de l'année. C'est-à-dire qu'on a encore eu, juste avant les vacances, une réunion sur les modalités d'évaluation des élèves pour ce qu'on appelle maintenant les E3C, qui comptent pour le bac et qui sont évalués en première et en terminale pour la première fois en janvier. Donc on a été prévenu assez tardivement, c'est vrai.
D'accord, parce que moi il y a un petit truc qui m'a chiffonné justement pour la cohérence, parce que c'est arrivé un peu trop tôt. Pourquoi tu rigoles, Margot? C'est parce que j'ai dit chiffonner, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est bien, c'est bien.
C'est parce que les épreuves blanches de français qu'on passe justement le lendemain de quand on enregistre cette émission, on nous demande de faire un commentaire composé, alors que depuis le début, on nous apprend un commentaire linéaire. Et le commentaire composé qu'on a vu en seconde, on ne l'a pas revu depuis cette année, on ne l'a pas revu. Donc je sais que même si ça, ces épreuves se rapprochent dans le concept, mais c'est plus dans l'idée pour montrer cette incohérence qu'il y a dans cette réforme en fait. Après attention, parce que ça, les épreuves blanches c'est géré en interne,
oui.
Je crois.
Oui.
Donc c'est que à FAB que c'est comme ça, donc je ne sais pas pour les autres lycées. Mais je sais que si, mais ça par contre c'est pas géré dans les lycées. Il y a 3 épreuves blanches.
Alors.
Enfin, de français. 3 épreuves blanches de français. Je sais pas si vous êtes.
Alors ça dépend complètement des établissements. C'est-à-dire que c'est l'entraînement au bac de français qui lui conserve un profil assez semblable à ce qui existait avant, c'est-à-dire 4 heures d'épreuves. Et après on a en plus des épreuves qui ne sont pas blanches, qui comptent pour le bac, qui sont organisées en janvier, en février, ça dépend des calendriers. Et ensuite, il me semble, au printemps.
D'accord. Donc après, attention, petit avertissement pour les auditeurs. On ne politise pas du tout ce sujet parce que ce n'est ni dans l'objectif de l'émission, ni dans l'objectif de la radio RTVFM. Donc même s'il y a forcément un enjeu politique dans cette réforme, nous n'en parlerons pas.
Disons voilà. Que nous sommes là pour témoigner de ce que nous vivons en tant qu'élèves et professeurs.
Du coup, oui, on parlait tout à l'heure des points positifs de la réforme avec la suppression des filières littéraires, scientifiques et économiques et sociales. Mais du coup, est-ce que vous pensez que cette réforme a d'autres points positifs ou que des points négatifs ?
Alors, je vais faire, en tout cas, pour répondre, je vais plutôt m'appuyer sur ce que les élèves ont pu me dire, parce que moi, je ne suis plus élève, je suis enseignante, et j'ai enseigné une matière qui est un petit peu nouvelle. Pour ce qui est des élèves, du retour des élèves en tout cas, au départ, ils étaient aussi ravis parce que ça supprime la structure classe. C'est-à-dire que le temps de vie commune avec une classe qui subsiste tout au long de la semaine disparaît, en tout cas se réduit beaucoup. Donc j'avais beaucoup d'élèves qui étaient ravis de ne pas voir tout le temps les mêmes personnes. Il y avait aussi le côté positif, c'était de varier beaucoup, beaucoup les activités pendant la semaine. Il s'est avéré par contre que sur la durée, c'était plutôt fatigant. Et pour nous, du point de vue des professeurs, le fait de n'avoir aucune structure classe durable, c'est aussi plus compliqué dans l'enseignement. C'est-à-dire que nous, même si ça arrange les élèves de ne pas voir ce qu'ils n'aiment pas, nous, ça nous arrange de nous appuyer sur un groupe pour pouvoir débattre, pour pouvoir construire une dynamique, etc., etc.
Pour les conseils de classe aussi, c'est compliqué.
Voilà, pour les conseils de classe, alors chaque établissement va s'organiser un peu différemment, mais c'est vrai que comme chaque élève a pris 3 spécialités différentes, chaque conseil de classe concerne une 50aine de profs en moyenne,
oui.
Qui ne seront pas présents. Donc seuls seront présents les professeurs du tronc commun. Mais ces professeurs du tronc commun connaissent finalement assez peu les élèves, puisqu'ils les voient un tout petit temps par semaine, et parlent d'une classe qui n'existe en réalité pas vraiment, puisque la majorité du temps se passe ailleurs.
Chaque élève aussi a plusieurs... Du coup, nous, on a... Enfin, moi, je crois que j'ai compté. J'ai 6 classes, je crois.
Ouais.
Sans compter qu'il y en a qui ont des options comme... maths P, non, je crois que c'est pas en première maths P, mais ils ont
des options facultatives,
voilà,
comme
latin.
Le latin, le provençal, voilà, l'option sport, l'option art, l'option théâtre, etc. Ouais.
Oui, ça fait beaucoup. Donc, juste avant une petite pause musicale, si on va faire un bond en arrière, la réforme du bac, elle tombe sur vous en tant qu'élève.
Oui.
Comment vous réagissez ?
Pas une question que je me suis posée. En fait, pour ma part, j'étais une élève qui avait le choix entre faire S, L ou ES. Donc je n'ai pas été confrontée à la difficulté
oui.
De « je ne pouvais rien faire ». Et il s'avère que je voulais faire L par choix. Donc malgré l'insistance de mes professeurs de sciences, j'ai choisi volontairement de m'orienter vers L parce que je savais que si je ne m'orientais pas en L, la littérature n'existerait pas dans ma vie assez naturellement. Ça a été un choix très douloureux à faire, puisque j'aimais aussi beaucoup les sciences, enfin, surtout la physique-chimie, moins les mathématiques. Et c'est vrai que si maintenant, aujourd'hui, on me disait que je pouvais faire, c'est-à-dire continuer la physique-chimie et aussi envisager un parcours littéraire, je pense que ça m'aurait convenu. Après, ce qui était très appréciable en L, c'est que pour le coup, on a été très approfondis dans les différentes matières littéraires. je sais pas si en fait, je suis pas sûre, je sais pas si j'aurais bien compris la cohérence de mon parcours si j'avais eu fait trois choses très différentes.
D'accord. D'accord. Bon, on en reparle tout à l'heure. Tout de suite, une petite pause musicale. C'est Diego de Iselt. À tout de suite sur RTVFM.
Et le sol qui m'inspire. Il est le seul à penser mes blessures quand tout va mal. Il est le soleil dans ma vie. Tcheco, tcheco, notre histoire était écrite. Tcheco, tcheco, notre histoire était écrite. C'est pas le moment, non, 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 de me laisser en plan, non, non, non. J'ai besoin de toi, mon amour. J'ai besoin de toi. De toi, mon amour, j'ai besoin de toi.
When did you wanna, wanna, when did you wanna, 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 when did you wanna, wanna, when did you wanna, 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 when did you wanna, wanna, when did you wanna, 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 when did you wanna, wanna, when did you wanna, 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 wanna.
J'ai du mal à voir le monde en colère. Tcheco, 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 je t'ai dans le cœur. J'ai ton parfum tatoué sur mes lèvres. Si seulement un jour j'étais seule, à qui tu donnerais tout, même ton cœur d'épaule.
When did you wanna, wanna, when did you wanna, 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 when did you wanna, wanna, when did you wanna, 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 when did you wanna, wanna, when did you wanna, wanna, wanna. When did you win up? When did you, when did you win up? When did you win up? When did you win up?
C'était Diego de Iselt, vous écoutez comme tout le monde sur RTVFM. Et aujourd'hui, je suis avec Madame Duterail, professeure de philosophie, et Margot, qui est notre nouvelle co-animatrice de l'émission. Alors, on parle aujourd'hui de la réforme du bac. Donc, on va faire un bref résumé. C'est une réforme qui supprime en gros les filières S, L et ES, et qui à la place propose de choisir trois spécialités. Moi, j'aimerais parler du fait que ça crée des inégalités, je trouve, entre des élèves. Parce que, par exemple, la matière qu'on parlait tout à l'heure, l'enseignement scientifique, il est pour tout le monde, donc dans le tronc commun. Et si une personne a pris, par exemple, art, littérature et histoire, par exemple, enfin, je raccourcis les noms parce que c'est des noms souvent à rallonge, les spécialités, ben, il sera moins bon dans la matière scientifique qu'une personne qui a pris maths, physique, SVT. C'est la même chose pour l'histoire d'ailleurs, parce que les élèves qui ont pris des matières scientifiques en spécialité, eh ben, ils n'auront pas autant de bonnes bases que pour l'histoire. Donc voilà, je voulais mettre en avant ce fait qui est que ça crée des inégalités. Quoi.
Alors c'est vrai qu'en plus, j'y avais pas pensé, mais du coup, il y a une sorte de porosité entre les matières, puisque j'ai aussi entendu de la part des professeurs de français que ceux qui prennent la spécialité littérature se servent aussi des cours qu'ils ont eus en spécialité pour améliorer leur niveau en français. Oui. Donc ça marche dans tous les sens, mais finalement, est-ce qu'on retrouve pas du coup des spécialistes de lettres, des spécialistes de sciences?
Mais je pense, parce que Ça équilibre peut-être la moyenne aussi, surtout en sciences, parce que pour l'instant ça n'a pas l'air glorieux de mon côté. Mais ouais, Ça aide, d'un côté ça aide et d'un côté ça crée des fossés en fait, parce que c'est pas qu'on est pénalisé, parce que les cours sont les mêmes. Et comment vous pensez qu'on peut justement limiter ces inégalités?
Bah, c'est surtout en sachant que les enseignements qui sont obligatoires ont les mêmes coefs selon les spécialités que nous on a. Donc plutôt compliqué de rééquilibrer les moyennes. Du coup, vous pensez qu'il y a des solutions à ça ou pas?
Alors, il faudrait d'abord peut-être que les professeurs en soient conscients. C'est-à-dire que normalement, ils sont censés évaluer l'enseignement scientifique en dehors de toute référence aux autres enseignements. C'est-à-dire que ce qui doit être attendu en relation avec le cours qui a été donné et pas en relation avec ce qu'on a appris en dehors de ce cours, c'est-à-dire en spécialité scientifique ou ailleurs. Donc ça, c'est vrai que pour le coup, pour ce qui est de la conscience des professeurs sur ce sujet, je ne suis pas sûre qu'elle soit totale. Et ce serait intéressant de communiquer sur ce sujet.
Ce qui est compliqué aussi, c'est de se repérer aussi. Parce que les cours, les notions sont assimilées dans la tête, mais ne sont pas assimilées à une matière. Donc quand on parle de démocratie en spécialité histoire, géo, géopolitique et sciences politiques, on va tout de suite faire le rapprochement au programme d'histoire parce qu'on en parle. Ça en devient naturel. J'aimerais aussi parler du fait qu'il y a des inégalités dans les programmes, surtout dans l'éducation nationale, surtout à travers un exercice que je trouve particulièrement inégalitaire, c'est la dissertation. Parce que même si c'est un exercice que je trouve très très bien, pour moi, il n'y a rien de pire parce que c'est un exercice qui fait appel à la culture de l'élève. Et la culture, elle n'est pas égale à tout le monde. Enfin, il n'y a pas tout le monde qui a la même culture. Ça dépend beaucoup de ce qu'il y a à la maison, plein d'éléments extérieurs, des livres qu'on lit, etc. Donc, comment faire? Est-ce qu'il faut continuer cet exercice, mais axer le programme éducatif sur la culture pour élargir la culture des élèves? Ou est-ce qu'il faut laisser les élèves se débrouiller, aller chercher sur Internet
Moi, je pense que du coup, avec le nouveau programme de français, avec le bac de français, ça a aussi joué là-dessus, étant donné que maintenant, on a des œuvres obligatoires plus un parcours associé. Et du coup, sur ce parcours associé, on a des œuvres choisies par les profs de français qui nous aident à approfondir le programme et à mieux comprendre les œuvres obligatoires qu'on a étudié et à prendre des analyses pour le bac.
Et c'est vrai que dans l'idéal, la dissertation n'est pas discriminante dans le sens où ce qui est évalué, c'est censé être ce qui est donné par l'école. Et avec ces nouvelles spécialités, la culture est censée être approfondie par le biais de l'école. Oui. Donc c'est un problème qui est... Le problème lié à la dissertation, il reste le même dans l'ancien système comme dans le nouveau système. Et c'est plus un problème de fond.
Oui, certes, pour les livres, tout ça, mais il y a aussi, on nous demande aussi parfois de citer des citations connues. Et les citations connues de grands hommes, que ce soit des hommes politiques ou des hommes de lettres, elles sont pas forcément appris dans l'enseignement
Alors, en fait, c'est que la dissertation, c'est un exercice qui est exigeant. Et on peut effectivement réfléchir à de nouveaux exercices qui seraient moins discriminants sur la culture générale que l'élève a reçue en dehors de l'école. C'est possible. Néanmoins, comme on aurait aussi le sentiment que finalement, c'est d'ailleurs déjà un petit peu le cas, puisque dans les spécialités, l'évaluation ne se fait plus sur une dissertation. La dissertation est réservée à des exercices de matière type français et philosophie, donc c'est déjà très restreint. Et on se demande, nous, professeurs de français et de philosophie, si on supprime ce type d'épreuve, s'il restera encore une épreuve assez exigeante intellectuellement, c'est-à-dire pas en termes de culture, mais en termes d'organisation de la pensée. Et on craint un petit peu, si ce genre d'exercice disparaît, qu'il ne reste plus que des exercices qui témoignent de quelque chose de très superficiel, c'est-à-dire non pas d'une culture superficielle, mais d'une réflexion superficielle. Et du coup, il faudrait quand même trouver un exercice qui maintienne une exigence sur quelque chose que normalement tout le monde partage, qui ne tient pas à la culture, c'est-à-dire la réflexion.
Ok. Moi, du coup, j'avais une question qui était un peu plus technique, pour le coup. On sait que cette réforme a beaucoup bouleversé les emplois du temps, étant donné que maintenant les spécialités se font par 4 heures, donc 2 heures et 2 heures pour chaque spécialité. Et on sait que, par exemple, nous, dans notre lycée, ça a beaucoup bouleversé les emplois du temps des élèves de première.
Donc on a des emplois du temps qui sont très compliqués. Et je sais aussi que pour moi, en tout cas, le passage de la seconde à la première a été plutôt compliqué, étant donné qu'il y a un grand pas, je pense. Il y a une demande de travail qui est beaucoup plus importante en première. Et donc des connaissances qu'on doit avoir encore plus et encore plus approfondies. Et du coup, par rapport à ça, je pensais que vous pourriez nous donner votre avis sur les emplois du temps et sur le fait que les demandes de travail qui sont encore plus grandes en première restent les mêmes, alors que nos emplois du temps sont plus compliqués, étant donné que bah, personnellement, par exemple, j'ai des jours où je fais 8h, midi, 13h, 18h, donc j'ai pas vraiment le temps de travailler pendant les cours. Le soir, il y a des gens qui doivent prendre le bus pour rentrer chez eux, il y a des gens qui habitent loin, donc on rentre chez nous, il est 18h30, 19h, on a encore des devoirs à faire, des leçons à réviser pour nos devoirs surveillés, nos devoirs communs, qui comptent pour la moyenne. Et donc, dans tout ça, où est-ce que nous, on prend le temps d'exister et même d'aimer travailler, en fait, et d'apprendre à aimer travailler avec ces nouvelles spécialités que, normalement, on a choisies et dont on devrait être heureux d'apprendre, en fait.
Alors, dans ce que tu dis, il y a deux choses. Il y a d'abord la partie emploi du temps et ensuite la partie trop de travail. Et pour ce qui est des emplois du temps, ça tient... En fait, bien sûr que moi, j'aimerais beaucoup que les emplois du temps soient allégés. Peut-être, alors il faudrait s'inspirer dans ce cas-là de modèles type le modèle allemand, où on passe un an de plus à réaliser le bac. Et du coup, les exercices sont un peu plus dilués sur les années et les emplois du temps sont un peu plus légers. Pour ce qui est de l'emploi du temps à Fabre, en fait, ça tient bien sûr à l'organisation choisie par l'administration, qui fait avec ce qu'elle peut. C'est-à-dire que voulant proposer la meilleure offre possible de spécialité, elle accepte de réfléchir du coup à des emplois du temps qui sont d'autant plus compliqués à construire. Alors bien sûr, en plus, comme il s'agit de la première année, il y a on espère en tout cas du côté professeur, des choses qui vont évoluer. Par exemple, le choix de mettre les options le vendredi après-midi, qui n'est pas très heureux. Justement dans cette logique de ben, les élèves ont choisi, donc ça devrait être un bon moment. Voilà pour ce qui est des emplois du temps. Ensuite, pour ce qui est du travail, là il y a quelque chose, c'est vrai qu'il y a de toute façon un saut en termes de travail entre la seconde et la première. Et ce que nous les enseignants nous avons encore du mal à mesurer, c'est qu'on rajoute en plus des épreuves de tronc commun, enfin des matières de tronc commun, des devoirs dans les matières de spécialité. Et je crois que, alors ce serait à vérifier, il me semble qu'il y a plus de matières que les matières qu'avait un élève de première lambda quand il y avait les filières. Ce qui implique s'il y a plus de matières qu'il y a chaque professeur dans sa matière va exiger un travail à la maison, un travail en classe. Donc le travail mathématiquement va être plus important. Et ça, je ne suis pas sûre qu'on en ait discuté entre professeurs et qu'on s'en soit rendu compte. C'est-à-dire que chaque professeur responsable de sa matière va, comme d'habitude, exiger un certain travail, sans vérifier, sans réfléchir à ce que ça représente forcément pour les élèves. Et puis, bien sûr, sans vouloir renoncer à une certaine exigence, parce que sinon, il aurait l'impression de faire quelque chose qui n'a plus de sens.
J'ai envie de dire que c'est normal un peu, parce que c'est quand même la première année de cette réforme, donc c'est une réforme qui est à l'état de test. Donc c'est complètement normal. Et Margot, tu as fait une transition parfaite avec ma future question. Je sais pas comment tu as fait, tu es trop forte. Parce que j'aimerais aborder le côté psychologique en fait, de cette réforme. Parce que maintenant, toutes les notes, comme tu disais, elles comptent dans ce qu'on appelle le tronc commun. Et ça plonge l'élève dans une situation de stress constant. Et c'est extrêmement fatigant. Donc comment faire pour ne pas avoir... pour ne pas être tendu à chaque fois qu'on entend le mot « contrôle » dans les cours. Comment on fait pour dormir aussi 9 heures par nuit quand on a des contrôles, des bacs blancs à réviser et des devoirs à faire? Est-ce qu'il faut faire des sacrifices sur des matières?
Alors, il y a plusieurs choses. Peut-être ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au début sur le problème de l'absence de classe. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez des délégués qui pouvaient faire remonter le fait qu'il y a trop de devoirs au même moment ou trop de devoirs... pour un entraînement un peu trop intense. Là, c'est plus possible, c'est-à-dire que nous ne sommes absolument pas conscients de ce que chaque élève vit, puisque chaque élève est dans une situation différente. Donc ça, c'est une première chose qui est accentuée par la réforme. Ensuite, C'est sûr que c'est bien de dormir 9 heures par nuit et de travailler raisonnablement. Et c'est vrai que je pense aussi que la part d'incertitude et de nouveauté liée à la réforme accentue le stress qui est porté sur l'élève. C'est-à-dire que nous, ne sachant pas encore exactement comment ça va parfaitement se passer, on exige de l'élève quand même des contrôles, on fait éventuellement un peu de zèle parce qu'on a peur d'avoir raté les exigences de la nouvelle discipline.
Niveau contrôle, moi, de mon ressenti, je trouve qu'on en a moins. Non, t'en as autant, toi, Margot.
Déjà, moi, je pense qu'on en a autant et qu'en plus de ça, ils sont concentrés sur les mêmes semaines. Après, ça, c'était déjà le cas les années précédentes.
Oui.
Mais je pense que ça a été plutôt choquant cette année, étant donné qu'on a beaucoup de contrôles et beaucoup de gros contrôles, surtout en spécialité que nous avons choisie et en matière du tronc commun.
Alors, pour donner un élément de réflexion, il faut savoir aussi qu'en terminale, là, actuellement, les terminales sont encore dans les filières classiques. Et les élèves de ES se plaignent aussi, avant les vacances, ont eu 7 contrôles, à la rentrée des vacances, 5 contrôles par semaine. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit un problème lié à la réforme, mais que c'est plutôt un problème peut-être français, lié à la façon dont on envisage l'apprentissage et la surprésence d'évaluation pour... garantir cet apprentissage, qui est peut-être finalement contre-productive.
C'est vrai qu'à chaque fois, souvent c'est avant les vacances, on a toute une flopée d'évaluations dans toutes les matières possibles et inimaginables, on en a partout. Mais c'est l'heure de faire une petite pause musicale, on en reparle tout de suite. Tout de suite, c'est Hervé, Cœur Poids Plume, que j'ai découvert en concert à Cavaillon. Profitez et à tout de suite sur RTVFM.
Et non, ça disparaît. Ça me fait aussi peur que le vacarme. Aussi loin que je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Je t'attends sur le coin d'une rue. Je sens le métro qui gronde sous mes pas. Pourquoi tu purges ma peine, je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Ah ouais, c'est maudit par eux. Montrer les dents, montrer les âmes. On s'aime aussi bien qu'on s'aime. Qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime. Ça dépend de la conjoncture. Je fais le point sur les soudures. Je recolle les petits bouts de toi. Les petits bouts de toi qui traînent par-ci, par-là. Maman, 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 ce moment j'ai mal. Comment qu'on fait, comment qu'on soigne. Ouais, dis à le bout qui va plus. J'ai le cœur. Dis-moi, je t'aimerais si tu m'aimes plus. Promis, je t'aimerais si tu m'aimes plus. J'ai le cœur pour plume, le cœur pour plume, le cœur pour plume, le cœur pour plume. Comment qu'on soigne. Ouais, tu y as le
C'était Cœur Poids Plume de Hervé sur RTVFM. Vous écoutez comme tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes avec Madame Dutérail pour parler de la réforme du bac. Nous sommes aussi avec Margot qui me regarde comme si je l'avais oublié. donc, on parle de la réforme du bac aujourd'hui. Et parce qu'il y a eu des changements, vous l'avez entendu partout. De toute façon, on en parle souvent dans les médias. Chez nous aussi, du coup, parce qu'on est quand même un média. C'est bientôt la fin de toute façon de cette émission, il nous reste quelques questions. Moi j'avais une question qui est à la limite de la philosophie pour vous,
oui.
Du coup que vous êtes professeur de philosophie.
Ça me va bien.
ça peut paraître bête comme question, mais c'est quand même un peu compliqué. Comment on rend un élève heureux? Parce que est-ce qu'on lui donne des bonnes notes, mais en même temps il sera moins valorisé, enfin, ses compétences seront pas assez évaluées en enseignement supérieur. Comment on fait?
Alors, pour rendre quelqu'un heureux, déjà, il y a toute la partie qui ne concerne pas, qui concerne moins l'école, c'est-à-dire la partie de sa vie à l'extérieur de l'école. Mais il s'avère que quand on est un élève, on passe une bonne partie de sa vie à l'école. Donc, si on envisage l'école simplement comme un espace d'évaluation et de gavage en termes de savoir, c'est sûr que c'est compliqué de rendre un élève heureux. Dans l'idéal, un élève est rendu heureux parce qu'il est content d'apprendre ce qu'il apprend. Il n'est pas stressé par les notes.
C'est ce qu'a voulu faire un peu le ministère en faisant choisir l'élève ce qu'il voulait apprendre.
Oui. Après, dans les faits, il s'avère que comme ça alourdit les emplois du temps et que ça, finalement, ça ne... En fait, on n'a pas parlé de la problématique de Parcoursup, mais la sélection après pour les études supérieures se fait... en fonction des spécialités, et finalement ce choix de spécialité n'est pas si libre qu'il le paraît. Donc l'argument de dire les élèves seront plus heureux en choisissant leur spécialité est finalement limité par la réalisation de ce projet, puisque cela implique beaucoup de travail, beaucoup d'exigences, et peut-être aussi un choix restreint lié à Parcoursup.
Oui, du coup, par rapport à ça, parce que cette réforme du bac nous dit maintenant vous allez pouvoir choisir ces matières que vous préférez, donc si vous préférez les matières littéraires, les matières artistiques, vous pouvez les choisir. Si vous préférez les sciences ou les matières économiques et sociales, vous pouvez les choisir. Sauf que déjà, premièrement, le problème est qu'on a toujours des matières qui ne nous plaisent pas, et ça depuis toujours, avec l'enseignement scientifique pour les élèves plutôt littéraires et le français et l'histoire pour les élèves plutôt scientifiques. Mais aussi que maintenant, du coup, avec tout ce travail et tous ces devoirs et ce gavage, comme vous avez dit tout à l'heure, de connaissances, je parle en mon cas plus personnellement, mais c'est vrai que je trouve que du coup, on peut moins s'impliquer dans ce que nous, on veut apprendre et des connaissances que nous, on veut acquérir avec cette réforme, étant donné qu'on a du travail et beaucoup de travail, mais dans toutes les matières. Et du coup, on ne peut plus se concentrer sur que nos spécialités, comme il y avait en littéraire ou en scientifique avec l'ancienne réforme. Et du coup, je pense que c'est un peu problématique parce que, en étant en seconde, je me suis dit qu'avec cette réforme, je pourrais choisir les matières dans lesquelles je voulais m'impliquer et que du coup, ça améliorerait mes résultats dans un premier temps, et que surtout je prendrais plus de plaisir à aller en cours et à apprendre ce qui m'intéressait. Et sauf qu'en fait là, en arrivant en première, je me rends compte que du coup j'ai deux fois plus de choses à apprendre et deux fois plus de connaissances à acquérir en un an, et que en plus de ça, il y a des matières qui ne me plaisent pas forcément, et du coup c'est vrai que je pense que ça pose problème.
Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a la question des matières qui ne plaisent pas forcément et qui sont dans le tronc commun et qu'on impose encore en quelque sorte aux littéraires ou aux scientifiques. Ça, là-dessus, ça reste en fait une idée de l'école française, c'est-à-dire de donner à tous un socle commun de connaissances en sciences et en littérature. Et bon, pour ma part, j'aurais envie quand même de défendre l'enseignement de la littérature et de la philosophie à toutes les disciplines, étant donné combien il est important de savoir parler français, savoir construire une réflexion, etc. etc. Après, pour la partie plus des nouvelles spécialités dans lesquelles on n'arrive pas bien à s'investir finalement, Il faut voir aussi que nous, dans ces spécialités qu'on nous propose d'enseigner, on nous a donné des programmes qui sont finalement sur le plan universitaire très intéressants, c'est-à-dire que les thématiques sont assez passionnantes. Par contre, comme c'est universitaire, c'est aussi très exigeant. C'est-à-dire qu'il faut quand même demander à des élèves de seconde, j'ai fait la présentation des spécialités hier en seconde, il faut leur dire, venez faire humanité, littérature et philosophie, nous allons commencer par étudier les pouvoirs de la parole dans l'Antiquité. Ce qui est quand même très spécifique, pas très séduisant, et peu représentatif finalement de ce qu'on représente, c'est-à-dire la culture générale dans le domaine littéraire et philosophique. Donc nous avons ces programmes-là à transmettre et des connaissances qui sont finalement assez fines et complexes. Et pour évaluer l'acquisition de ces connaissances, les devoirs sont aussi compliqués. Donc effectivement, ça implique beaucoup de travail pour l'élève. Et finalement, ces spécialités qui ont été choisies, elles ne sont pas juste choisies. J'ai choisi littérature parce que j'adore le français, je ne vais donc faire que du français comme j'avais prévu de faire du français. C'est je vais faire du français comme le programme prévoit que je vais faire du français, c'est-à-dire en étudiant d'abord la rhétorique de la parole dans l'Antiquité. Du coup, c'est sûr qu'en termes d'attentes, il y a une partie des attentes qui sont forcément déçues, puisque en fait, vous ne choisissez toujours pas ce qui se passe dans le cours de français, de maths ou de physique-chimie.
Une dernière question avant de se quitter, une question un peu plus bateau. Qu'est-ce qu'on va dire à notre futur employeur quand on va lui parler du diplôme qu'on a ? Est-ce qu'on va lui dire on a un baccalauréat général avec spécialité, en plus c'est des noms à rallonge difficiles à retenir la plupart du temps ? Comment on va dire, comment on va faire ?
Alors j'imagine, on n'a pas encore soulevé cette question, mais j'imagine qu'il faudra faire effectivement apparaître sur vos CV toutes les spécialités que vous aurez étudiées en expliquant à votre employeur pourquoi cette spécialité fait de vous un être à part.
Celle qu'on a abandonnée aussi en...
C'est ça.
On en abandonne une aussi en première pour la terminale.
Alors c'est vrai qu'en plus, pour ce qui est de la spécialité humanité, littérature et philosophie, par exemple, il y a une partie du programme qui intéresserait quelqu'un qui s'orienterait vers le droit, c'est-à-dire le début du programme, et quelqu'un qui arrêterait à la fin de la première pourrait dire bah « voilà, j'ai quand même étudié en français et en philosophie les pouvoirs de la parole ». Et ça va bien, du coup, pour Parcoursup et pour la suite. Par contre, je ne suis pas obligée de mener jusqu'au bout cette spécialité. Donc c'est vrai qu'il faudra faire apparaître sur les CV non seulement les spécialités suivies jusqu'au bout, mais aussi les spécialités arrêtées, parce qu'elles ont de l'intérêt pour un CV.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Duterail. Merci aussi, Margot, de m'avoir accompagnée. Pour conclure cette émission, juste un dernier petit mot, parce qu'on a parlé un peu... d'éducation nationale, c'était à la limite du politique quand même, parce que on ne peut pas parler de l'école sans politiser un peu le sujet, même si c'était pas dans l'intention, mais on a plus voulu vous faire ressentir ce que nous on reçoit au quotidien en tant qu'élève et en tant que professeur. Donc voilà, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter, Madame Duterail.
Oui, ça n'est qu'un simple témoignage, même si effectivement ce sujet est forcément politique, puisqu'il nous concerne tous et a des impacts directs sur les élèves et sur les professeurs.
Eh bien, c'était comme tout le monde sur RTVFM. Vous pouvez réécouter cette émission et avoir des informations supplémentaires sur le sujet sur le podcast qui sera diffusé juste après la diffusion directe de cette émission. Retrouvez ce podcast donc sur rtvfm.net. Et à bientôt pour une nouvelle émission.